Mathieu Béliard sur Europe 1.
17h59, nous sommes ensemble jusqu'à 19h ce soir. Ça me fait un peu bizarre, je dois vous le dire, mais c'est comme ça, c'est l'été, on écoute de la musique et on s'informe tout de même comme tous les soirs de l'année à 18h sur Europe 1. C'est votre grand journal du soir, version raccourcie, puisqu'à 19h, nous serons sur l'arrivée de la troisième étape du Tour de France, bien sûr. Elena Morna est là, bonsoir Elena.
Bien sûr, ça va Elena. Bonjour tout le monde.
Le sud-ouest est en alerte à cause des orages, bien sûr.
9 départements au sud et autour de la Garonne jusqu'au Tarn sont effectivement sous les orages en ce moment et placés en vigilance orange. Alors on a déjà enregistré l'équivalent d'un mois de pluie en 3 heures sur les Pyrénées-Atlantiques, des averses de grêle et de vives rafales de vent jusqu'à 107 km/h en Ariège. Alors des orages qui vont se calmer en deuxième partie de nuit, mais reprendre de plus belle demain matin entre le sud-Aquitaine, les Alpes du Sud, épargnant aussi le littoral où vous aurez quelques ondées. Sur les deux tiers nord restants, c'est toujours du beau temps, quelques nuages sur le Nord-Pas-de-Calais, puis des températures en baisse. Enfin d'ailleurs, on a envie de dire dans le sud-est, on ira tout de même jusqu'à 34 à Ajaccio, 32 à Nîmes. On passe enfin là sous la barre des 35 degrés, ça n'était pas arrivé depuis 14 jours. 30 à Bordeaux, Montpellier et Toulon, 29 à Nantes et Lyon, 26 à Paris, Vesoul et Besançon, 24 à Strasbourg et Biarritz, 23 à Caen et Lille, 18 seulement à Boulogne-sur-Mer sous les nuages. Des températures qui remonteront sur le nord mercredi avec encore quelques orages sur l'extrême sud-est. Jeudi, petit bémol pluvieux le long des frontières du nord, puis sur le nord de la Seine vendredi et un ciel bien nuageux sur une grande partie nord et est. Retour progressif des éclaircies puis du soleil à partir de samedi.
Merci beaucoup Elena Morna. Il est 18h sur Europe 1. Soyez les bienvenus, c'est votre grand journal du soir. Inéluctable, le mot des parents sur la mort à venir de Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans. Les traitements ont été interrompus mardi dernier. Nous ne pouvons que nous y résigner. La famille se déchire sur ce cas publiquement. Vous le savez, le père parle tout de même d'assassinat déguisé. À 18h10, nous sommes au CHU de Reims avant de retrouver en ligne François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Les semaines se suivent et se ressemblent sur le dossier iranien et la tension monte d'un cran tous les jours depuis ce matin. L'Iran affirme enrichir de l'uranium au-delà des seuils définis par l'accord international de 2015. La Russie s'inquiète officiellement, ouvertement du contexte. La Chine montre Washington du doigt. L'Union européenne appelle l'Iran à cesser ses activités d'enrichissement. Et au final, toujours la même question. Faut-il s'inquiéter de cette situation diplomatique, géopolitique? On en parle à 18h20. La pénurie de médicaments dans vos pharmacies, vous en souffrez peut-être, vous nous le dites. Ce soir, au 39-21, Agnès Buzyn présentait aujourd'hui un plan anti-rupture de stock. Est-il suffisant? Est-il rassurant? Les explications de notre experte santé, Mélanie Gomez, dans deux minutes, dans votre journal. Un nouveau mot ce soir du bac 2019, rocambolesque bac 2019. Les oraux de rattrapage ont débuté aujourd'hui. Vous entendrez ce soir que la confusion reste avec le choix des notes provisoires, avec des enseignants qui menacent de grève aussi sur ces oraux. Nous sommes devant un lycée d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, à 18h20. 18h30, je reçois le député La République En Marche, Jean-Baptiste Djebbari, ancien rapporteur de la réforme de la SNCF, un connaisseur des questions de transport. Sa proposition, renationaliser les autoroutes à la fin des concessions, dans les années 2030, selon les pièces du réseau. Pourquoi? Pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, une ligne budgétaire utilisable dès aujourd'hui, dit-il. Peut-être aussi pour calmer la gronde contre la privatisation d'ADP. Jean-Baptiste Djebbari, sa démarche et les chances de la voir aboutir, c'est dans 30 minutes sur Europe 1. Je lui dirai aussi un mot de cette information que nous révélions ce matin. On n'arrive pas à déconnecter les Français du téléphone au volant. Une disposition du projet de loi mobilité prévoit une suspension pure et simple du permis si le conducteur commet une infraction tout en téléphonant. On en reparle également avec Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. C'est à 18h45. Votre grand journal du soir, l'info et le débat le soir sur Europe 1. Je vous attends au 39-21.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
Mais pour démarrer cette édition, cap sur Épernay où nous retrouvons Axel May du service des sports. Bonsoir Axel.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous.
On parle évidemment du Tour de France, première arrivée d'étape dans le pays puisque le Tour a démarré en Belgique. Et premier Français en jaune également avec Julien Alaphilippe qui est vainqueur de cette troisième journée de course.
Alors, le jeu de mots est un peu facile ici à Épernay, mais ce fut une arrivée champagne. Julien Alaphilippe a porté une attaque décisive dans la côte de Mutigny alors que le peloton venait de rattraper le dernier échappé du jour. Côte de Mutigny située à 16 km de la ligne, à la fin, comme il est parfois surnommé, a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Il endosse, vous l'avez dit, le premier maillot jaune de sa carrière. Et ce qui est assez exceptionnel, Mathieu, c'est qu'il l'avait annoncé avant même le début du tour. Il avait coché cette étape d'Épernay avec ce final accidenté qui lui correspond à parfaitement. Il n'a pas la langue de bois. Hein. Il ne manie pas la langue de bois, Julien Alaphilippe. Il a toujours cette attitude cool, le sourire facile, volontiers blagueur, même si on l'a vu ému là, quand même, à l'arrivée de cette étape ici à Épernay. L'an dernier, le grand public l'avait découvert avec double victoire sur le Tour, au Grand Bornand et puis à Bagnères. Un maillot à pois. Cette fois, c'est donc le maillot jaune. Il est, on le rappelle aussi, numéro un mondial. Et cette année, cette saison, il a déjà remporté Milan-San Remo et la Flèche Wallonne. Je rappellerai juste également, Mathieu, que c'est la première fois depuis 5 ans qu'un Français est maillot jaune. La dernière fois, c'était Tony Gallopin. Et on n'avait jamais eu une telle disette sur le Tour de France.
Merci beaucoup, Axel Mayr. Je ne vous dis pas bonne soirée puisque vous continuez à bosser. On vous retrouve à 19h. Pour le Club Tour, 19h-20h tous les soirs sur Europe 1 avec Thomas Voeckler et Patrick Chassé, notre consultant, avec nos auditeurs évidemment au 39-21. Axel, vous ne manquez rien de ce Tour de France. Je vous rappelle le journal du Tour à 8h35 par exemple, ou encore Europe 1.fr dans les éditions de la mi-journée, la présentation de l'étape. Bref, vous allez vibrer sur ce Tour de France avec Europe 1. À tout à l'heure, Axel Mayr, il est 18h04. Et vous réagissez tout au long de la soirée au 39-21 sur le hashtag Europe 1. Comme Théo qui est avec nous, il a 23 ans, il est à Issy-les-Moulineaux, il nous appelle précisément au sujet du Tour de France. Bonsoir Théo.
Bonsoir Mathieu.
Bon, vous êtes clairement un supporter de Julien Alaphilippe, Alaph, hein, ce que nous disait Axel, mais on l'appelle Alaph apparemment.
Oui, comment ne peut-on pas supporter Julien? C'est un grand coureur. Aujourd'hui, il a montré encore qu'il était un grand champion parce que l'étape, il l'avait annoncé, elle était pour lui. C'est typiquement le genre de profil sur lesquels il est à l'aise.
Ça, ça sent quand même le sportif qui a un peu la gagne. Hein, quand il est capable de dire que cette étape, elle est pour moi avant de la courir, c'est vrai qu'on part dans de belles dispositions.
Ah ouais, c'est révélateur d'un état d'esprit, de quelqu'un voilà, qui est un killer. Là, il aurait pu attendre le sprint parce que les sprints en côte, c'est typiquement le genre de course sur lesquelles il est très fort. Il attaque à 16 km de l'arrivée. En plus, il envoie une patate. On aurait dit les Rodriguez et Gilbert et tous les grands punchers de ces dernières années. Il va prendre le maillot. Que dire de plus?
Eh ben écoute, on va le suivre maintenant. Il faut le garder après, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes. On est évidemment qu'au troisième jour de ce Tour de France. Je suis sûr, Théo, que vous serez à l'écoute d'Europe 1 entre 19h20 et 20h, hein, sur le Club Tour, évidemment, avec Axel Mayr et Thomas Voeckler, Patrick Chassé, nos consultants. Merci, Théo, de votre appel. À très bientôt Théo, merci d'avoir composé le 39-21 depuis Issy-les-Moulineaux, 18h06. La pénurie de médicaments à la une ce soir, toujours. La ministre de la Santé vient de dévoiler son plan anti-rupture de stock, un plan qu'Agnès Buzyn elle-même décrit comme préliminaire. Avant d'autres annonces à la rentrée, on verra ce qu'il en est. Bonsoir Mélanie Gomez.
Bonsoir.
Ces mesures annoncées par Agnès Buzyn, est-ce qu'elles vont suffire à calmer la panique, puisqu'on peut parler de panique dans les pharmacies?
Alors, pour le moment, la ministre a effectivement juste présenté ses grandes orientations. Par exemple, elle vise plus de transparence à l'avenir entre les différents acteurs du secteur, notamment entre les labos et les grossistes. Et puis, elle a permis aussi aux pharmaciens de remplacer un traitement indisponible par un autre lorsque c'est un médicament essentiel aux patients. En réalité, c'est déjà ce qu'il se faisait, mais jusque-là, ce n'était pas tout à fait légal. Alors tout ça, c'est un point de départ, mais clairement, il va falloir aller plus loin avec des mesures concrètes en septembre, car en pharmacie, la situation est parfois très compliquée. Il y a des patients qui, en ce moment, doivent faire parfois 4 ou 5 pharmacies pour trouver leurs médicaments, ou d'autres même qui n'y parviennent pas du tout, comme Florence, 56 ans, depuis 3 semaines, sans traitement contre sa polyarthrite rhumatoïde.
Si j'ai trop de douleurs, ben je ne peux pas marcher, je ne peux pas me lever, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas me laver ni manger. Et ça m'inquiète pour savoir jusqu'où je vais pouvoir supporter la douleur n'ayant pas ce traitement. Il n'y a pas de solution. Actuellement, il n'y a aucune solution.
Alors pour Florence, qu'on vient d'entendre, hein, ce sont des douleurs qu'elle doit gérer, mais dans certains cas, ça peut être encore plus grave. Un sondage publié en janvier dernier montre que pour un malade sur 20 qui a été confronté à une rupture de stock de médicaments, ça s'est terminé par une hospitalisation.
Merci beaucoup. Mélanie Gomez, vous souhaitez réagir, vous souhaitez témoigner, que vous soyez pharmacien évidemment, en officine ou même patient, il vous manque un traitement. 39-21, le hashtag Europe 1. Merci Mélanie Gomez, il est 18h08.
Europe 1.
Sur Europe 1, nous allons reparler du cas Vincent Lambert. À présent, vous connaissez Vincent Lambert, évidemment, en état végétatif depuis plus de 10 ans. Les traitements ont été interrompus mardi dernier. La famille se déchire publiquement depuis de longues années. Les parents se disent désormais résignés. Nous ne pouvons que nous y résigner. La mort de Vincent Lambert est inéluctable. On en parle dans quelques instants. Nous sommes avec notre envoyé spécial au CHU de Reims dans un instant. François Lambert, neveu de Vincent Lambert, en direct avec nous. À tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
C'est la fin d'un feuilleton, clairement. Les parents de Vincent Lambert ont annoncé ce matin dans une lettre ouverte la fin de leur opposition à l'arrêt des traitements. Depuis mardi dernier, Vincent Lambert ne reçoit plus les traitements qui le maintenaient en vie. Les parents qui militaient pour continuer les traitements ont toutefois porté plainte pour tentative de meurtre. Nous retrouvons à Reims Yasmina Katou, notre envoyée spéciale. Bonsoir Yasmina.
Bonsoir.
Vous êtes devant le CHU de Reims où est hospitalisé Vincent Lambert. Ses proches lui ont rendu visite.
Oui, Pierre et Viviane d'abord. Les parents de Vincent Lambert sont arrivés à pied à l'hôpital de Reims en fin de matinée. Viviane était vêtue d'une longue robe noire et cachait son visage derrière de grandes lunettes de soleil. Elle est actuellement toujours à son chevet. Pierre, le père de Vincent, est lui parti il y a environ une heure maintenant. Dans une lettre ouverte publiée ce matin, les parents ont déclaré « La mort de Vincent est inéluctable. Nous ne pouvons que nous résigner ». Dans cette lettre, ils annoncent qu'ils ne s'opposeront plus à l'arrêt des traitements. Un soulagement pour François Lambert qui militait pour l'arrêt des soins. Le neveu de Vincent est arrivé en milieu d'après-midi pour prendre le relais. Les deux clans ne se croisent pas, ils n'ont pas les mêmes heures de visite. L'hôpital a réservé les deux chambres voisines à celle de Vincent pour permettre aux différents camps de la famille de veiller sans jamais se voir. François est resté au chevet de son oncle un peu plus d'une heure après une bataille judiciaire qui dure depuis 6 ans maintenant. François s'est dit enfin apaisé de pouvoir dire adieu à son oncle.
Merci beaucoup Yasmina Katou devant le CHU de Reims. Nous retrouvons à présent François Lambert, neveu de Vincent Lambert. Bonsoir François Lambert.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. L'annonce des parents de Vincent Lambert qui se disent donc résignés, la mort est inéluctable, ce sont leurs mots. D'abord, votre sentiment dans ce conflit familial. Vous avez toujours soutenu Rachel Lambert, la femme de Vincent Lambert. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui ce que vous ressentez du soulagement?
Oui, plutôt de l'apaisement. J'étais dans le service, c'était très calme. Voilà, et je suis extrêmement surpris par le message des parents de Vincent parce que, bah, en gros, il est très contradictoire. Il continue de dire que c'est une mort qui lui est imposée, c'est-à-dire que c'est un assassinat, et qu'en même temps, comme ils sont résignés, ils vont être dans le recueillement et dans la dignité auprès de lui, ce qui est quand même de mon point de vue une très bonne chose.
Cette résignation, pardon, François Lambert, c'est peut-être aussi, ça va dans votre sens, hein, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de recours.
Mais ils l'ont dit en plus. Hein. Ils ont dit qu'ils avaient passé toute la semaine dernière à essayer de faire des recours et que ça n'avait pas marché et que c'est pour ça qu'ils se résignaient. Mais effectivement, on aurait pu craindre. Enfin, moi, je craignais des réactions un peu plus violentes de leur part, pour être tout à fait honnête, parce qu'ils ont pu se montrer violents aussi dans d'autres combats qu'ils ont menés il y a des années. Là, voilà, je suis plutôt satisfait que ce soit très calme et qu'il y ait de l'apaisement derrière et que ça permette au moins aux autres de profiter de ces derniers instants avec Vincent. Donc oui, je suis plutôt... plutôt très surpris et très satisfait par ça. Après, il ne faut pas se leurrer, ils ont déjà dit qu'une fois que Vincent serait parti, ils continueraient les plaintes, ils continueraient d'autres choses. Donc,
Le père de Vincent Lambert, par exemple, parle d'assassinat déguisé.
Oui, absolument, c'est un assassinat déguisé. C'est une euthanasie, comme il dit. Alors, ça n'est pas tout à fait une, mais voilà, c'est ce qu'il dit. C'est son ressenti, effectivement. Et on sait qu'ils sont très énervés, mais c'est très étonnant cette réaction qu'ils ont. Moi, je pense honnêtement que c'est aussi parce que la loi Leonetti les satisfait quelque part, parce qu'elle leur a permis de garder Vincent en vie pendant 6 ans et qu'elle leur permet beaucoup de procédures juridictionnelles et qu'il y a un langage commun malgré tout.
J'allais vous emmener justement sur la question de la loi. Vous attendez de la société, hein, du législateur bien sûr, mais de la société dans son ensemble, qu'elle tire des enseignements de ce que vous avez connu, vous, dans votre famille ces dernières années?
Ah oui, j'espère bien, mais c'est surtout, c'est pas la société d'ailleurs, parce que la société elle est prête, hein. Il y a des gens qui reculent à longueur de temps, qui font en sorte que les choses reculent. Malheureusement, la loi Leonetti, elle fait partie de ce mouvement, c'est-à-dire que c'est un langage commun avec les provis, quelque part, et même si eux-mêmes ne sont pas provis, il y a un langage commun qui est tenu avec eux, et il y a une façon de stigmatiser en fait tous les gens qui sont favorables à l'euthanasie et de lutter contre l'euthanasie. Et ce qu'on a vu pendant 6 ans avec Vincent, c'était principalement une lutte contre l'euthanasie pour expliquer que ce n'était pas une euthanasie, que donc tout le monde devait être d'accord avec eux, y compris les provis. Et ça, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de concessions qui leur ont été faites et de compromissions, de mon point de vue, qui ont été faites. Je pense que ça explique le calme des parents de Vincent aussi, parce que cette loi, comme je vous dis, elle leur va à peu près. La société civile, elle est prête, on le sait très bien. Tous les sondages le montrent. C'est le législateur qui doit prendre les choses par là et par les rênes, si je puis dire, qui doit prendre ce problème, qui doit le régler. voilà, qui doit donner un cadre qui fasse en sorte que des choses comme des affaires comme l'affaire Vincent Lambert ne se reproduisent pas. Là, il y a des risques que ça se reproduise. Le risque que ça se reproduise, c'est pas forcément qu'il y ait 6 ans de procédure, c'est que s'il y a un proche qui n'est pas d'accord quelque part, les traitements du patient soient maintenus. Parce que les médecins se diront, bah voilà, 6 ans d'affaire Vincent Lambert, s'il y a un proche qui n'est pas d'accord, nous on va le maintenir en vie parce que le proche là il pourra rien faire et que le patient, bah c'est pas le plus sujet. Ce qui compte, c'est quand même l'apaisement, etc. etc.
Bon,
donc il y a ce risque là. Donc j'espère que le législateur, effectivement, va se servir de cette affaire. Il va voir qu'il y a eu des choses très, très concrètes, très, très pratiques. Qui peuvent être mises en place et qui est un dogme de la loi Leonetti qui doit pouvoir être contourné, arrêt des traitements ou euthanasie d'ailleurs. Moi je suis plutôt favorable à l'acte euthanasique, mais on peut aussi envisager ça sous l'angle de l'arrêt des traitements. Il y a des choses très pragmatiques à faire sur une loi qui n'est absolument pas pragmatique, mais qui est en réalité très idéologue par rapport au combat qu'elle mène avec les pro-vie.
Alors justement, aujourd'hui, depuis mardi dernier, Vincent Lambert n'est plus alimenté, il n'est plus hydraté. Quand vous le voyez, puisque vous avez la possibilité de le voir, est-ce que ça change quelque chose en ce moment ?
Ah bah oui, clairement, sur le corps, je ne vais pas vous faire une description, mais enfin, tous les gens qui ont vécu ce genre de choses, ils vous le diront, sur le corps, c'est extrêmement violent. Enfin, c'est vraiment, enfin, quand on le voit dans cet état, et quand on voit ce que ça fait, et quand on nous dit qu'il y a une sédation, mais qu'on est décrit très précisément ce qui peut se passer... Voilà, au final, c'est le cœur qui lâche parce qu'il n'en peut plus. Les organes luttent, mais ils n'en peuvent plus non plus. Voilà, et on le voit presque physiquement, je veux dire. On peut voir la poche d'urine, on peut sentir la... On peut entendre la respiration de Vincent, on peut entendre... voilà, physiquement, on voit qu'il y a une lutte et qu'il y a en même temps un départ qui se prépare et que c'est quelque chose de très violent parce que ça dure très longtemps, en fait.
Vous serez dans sa chambre la nuit prochaine, je crois.
Oui, cette nuit-là, oui.
Vous lui parlez ?
Non, je pense que je vais mettre de la musique. Là, je me suis rendu compte quand les journalistes m'ont posé la question à la sortie, savoir si ce que je lui avais dit. En fait, je n'avais rien dit du tout. J'étais rentré, j'ai juste regardé. Et, voilà, je me suis juste assis avec lui et j'ai parlé un peu à Rachel qui était là, son épouse. Mais
comment va-t-elle ?
Non, cette nuit, bah, elle est très fatiguée justement parce que pour ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même physiquement éprouvant comme processus l'arrêt des traitements. Et surtout avec la volonté de ne pas faire d'euthanasie, c'est-à-dire à faire durer les choses le plus possible. Voilà, donc moi cette nuit je serai là effectivement je sais pas si je vais lui parler, je pense que je vais mettre de la musique, je vais peut-être lui parler un petit peu évidemment, mais pas, à mon avis pas beaucoup plus que ça, parce que c'est bien que chacun soit dans le recueillement et même si on pense qu'il n'est absolument plus là, il y a toujours une humanité à lui accorder jusqu'au bout et du coup je pense que c'est bien aussi qu'il soit dans le recueillement seul, c'est-à-dire lui parler quelques temps mais d'être avec lui aussi pour que lui soit dans le recueillement de son côté et que moi je sois dans mon recueillement de mon côté et pas forcément interférer avec ses derniers instants non plus.
Merci François Lambert.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accordé quelques minutes ce soir sur Europe 1. François Lambert, le neveu de Vincent Lambert dans ce conflit familial. François Lambert qui a toujours soutenu l'épouse, Rachel, l'épouse de Vincent Lambert. Il est 18h18. Le rappel de l'information avec Sophie Echen.
104 000 lycéens convoqués au rattrapage du bac. Les épreuves ont commencé ce matin avec pas mal de confusion, des délibérations de jurys houleuses, des notes inventées et des élèves stressés. Dans le lycée Le Corbusier à Aubervilliers, les oraux ont même été reportés. Le Vatican lève l'immunité de son représentant en France. Le nonce apostolique Luigi Ventura est visé par une enquête pour agression sexuelle. 4 hommes ont porté plainte, dont 3 au moins pour attouchement. 9 départements du sud-ouest de la France en vigilance orange aux orages des Landes, au Tarn-et-Garonne. L'équivalent d'un mois de pluie est tombé en 3 heures cet après-midi sur les Pyrénées-Atlantiques. Et puis la victoire de Julien Alaphilippe au terme de la 3e étape du Tour de France entre Binche et Épernay. Vous avez entendu son arrivée en direct sur Europe 1 avec Axel May. Le Français de l'équipe de Koenig Quick-Step s'empare également du maillot jaune de leader d'épreuve.
Merci beaucoup Sophie Echen. 18h19, l'Agence internationale de l'énergie atomique confirme il y a quelques minutes que l'Iran a commencé à enrichir de l'uranium à un degré, je cite, supérieur à celui autorisé par l'accord de 2015. Situation toujours très tendue dans la région. On en parle dans quelques instants sur Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
Le bac 2019, un bac des plus rocambolesques. Nous sommes ce soir au lycée Le Corbusier à Aubervilliers avec Jean-Jacques Herry de la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir.
Ce matin, les enseignants sont venus rendre des copies corrigées alors que des élèves venaient passer leurs oraux de rattrapage. Il faut dire que ces dernières semaines, franchement, on a du mal à s'y retrouver avec cette édition du baccalauréat. Jean-Jacques, comment se passent du coup les oraux de rattrapage à Aubervilliers où vous êtes ?
Eh bien, c'est le chaos, car comme les 250 copies manquantes sont arrivées ici ce matin, eh bien, certains jurys de professeurs ont finalement décidé de délibérer aujourd'hui, toute la journée, mais en prenant en compte les vraies notes de l'examen. Conséquence, une grande partie des oraux de rattrapage sont annulés. Les élèves de terminale sont donc rentrés chez eux, sans savoir si oui ou non ils sont effectivement admis à passer ce rattrapage. C'est le cas d'Eva, venue tout à l'heure voir si elle avait enfin ses notes définitives. Rien d'affiché. Alors elle reste convoquée demain matin pour passer les mathématiques et la philosophie, alors que potentiellement elle a peut-être déjà son bac. Elle allume une cigarette pour se calmer.
Très 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 énervée parce qu'à cause des jurés, on n'a toujours pas nos résultats, ils ont toujours pas délibéré. Je vais devoir passer mon rattrapage sans avoir mes vrais résultats du bac.
Donc en fait, peut-être que vous n'avez pas besoin de le passer ce rattrapage.
Vous êtes obligé de le repasser quand même. Imaginez demain encore, ils nous disent les jurés n'ont pas voulu délibérer, ce sera pour mercredi. Ça veut dire qu'ils vont nous faire tourner en rond jusqu'à quand ?
Et puis il y a un autre problème, une irrégularité pointée par des professeurs qui sont venus nous voir d'ailleurs. Selon eux, des notes officielles d'examen déjà enregistrées dès jeudi dernier auraient été modifiées depuis. Écoutez cet enseignant en mathématiques.
Des notes biffées sur les copies par exemple, et des écarts qui vont jusqu'à 3 points. Vers le haut toujours, hein. Mais là on ne sait pas qui a fait ça.
Et l'idée c'est quoi selon vous ?
C'est de produire des résultats en temps et en heure comme le ministre l'a décidé.
On a donc l'impression d'en découvrir chaque jour un peu plus, Mathieu, sur les coulisses de ce bac 2019 qui restera dans les annales comme un chemin de croix pour de nombreux lycéens. Si tout se passe bien, les délibérations de jury ici doivent prendre fin ce soir avec des résultats qui devraient, je dis bien devraient, parce qu'il faut rétablir. Il faut rester prudent, devrait être affiché à 7h30 demain matin.
On va rester prudent, vous avez raison Jean-Jacques Herry et Aubervilliers. Merci beaucoup Jean-Jacques, je ne sais pas si on a déjà vu ça, hein. Ce bac 2019, il y a évidemment le bac 68 hein, dont on a beaucoup parlé à travers les années, mais alors une édition comme celle-ci avec des rebondissements et on imagine le stress des élèves, je suis... Je ne suis pas sûr que ce soit inédit, vous allez peut-être nous rappeler d'autres souvenirs, mais moi, de ma mémoire, j'avais rien vu d'aussi rocambolesque. On va prendre Kéliane en ligne sur le baccalauréat au 39-21. On est en région rémoise, justement, on est dans la Marne. Bonsoir Kéliane.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Ah, je vois que vous avez 18 ans. Alors pour vous, le bac, c'est bon ou pas ?
Oui, c'est bon.
C'est bon ? Ça y est, bon. C'est fait ? Il n'y a pas eu de suspense particulier, si ?
Non, du tout. On a eu les résultats à temps et heureusement parce que le stress était parmi nous et c'était vraiment très très long pour nous.
Très très long évidemment d'attendre comme ça l'est chaque année, mais vous avez pu avoir vos résultats à temps, pas de rattrapage. Une petite mention même, je vois sur ma fiche, Kéliane.
Oui.
Bon, bah, félicitations, vous allez faire quoi maintenant ?
Actuellement, je travaille dans une entreprise pour pouvoir m'aider pour financer ma voiture. Et l'année prochaine, je suis embauché, dans une entreprise pour pouvoir faire les musiques qui m'ont toujours plu et pour pouvoir après faire une formation de 4 ans pour avoir un bac plus 4 en management.
Donc vous allez faire le métier qui vous a toujours plu avant la formation ?
Oui. Oui, en fait, c'est en cours. Vous êtes en alternance ? Dans l'entreprise. Non, c'est directement salarié.
D'accord. Très bien, Kéliane. Le métier en question ?
C'est agent immobilier.
Eh bien, écoutez, Kéliane, je vous souhaite plein de bonnes choses.
Ben, merci
plein
beaucoup.
De ventes à venir. Merci de nous avoir appelés au 39-21 ce soir. Bon, Kéliane a eu plus de chance que ses élèves d'Aubervilliers qu'on entendait avec Jean-Jacques Herry. Merci, Kéliane, d'avoir composé le 39-21, 18h26. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, promet plus de sanctions et plus d'isolement à l'Iran. Le bras de fer continue entre Washington et Téhéran. L'Iran a choisi de répondre aux sanctions imposées par les États-Unis. Depuis ce matin, le pays ne respecte plus l'un de ses engagements du traité sur le nucléaire. L'Iran produit désormais de l'uranium enrichi à 4,5%. Bonsoir Jean-Sébastien Soldaini.
Bonsoir.
Enrichir de l'uranium à 4,5%, est-ce que c'est vraiment une provocation ?
Eh bien, disons que les Iraniens flirtent avec les limites, mais sans vraiment franchir la ligne rouge 4,5%, on est bien loin des 20% qui ne sont qu'une première étape pour avoir de l'uranium de qualité militaire. Et même s'ils arrivaient à 20%, eh bien, il n'y aurait pas de quoi avoir une arme nucléaire digne de ce nom. Donc, en ce sens, ce n'est pas vraiment une provocation. La vraie ligne rouge, ce serait que l'Iran interdise aux inspecteurs internationaux de procéder au contrôle, des contrôles qui sont quasi inopinés, menés par l'Agence de l'énergie atomique et qui, jusqu'à présent, assuraient le bon déroulement de l'accord sur le nucléaire. Téhéran respectait jusque-là ses engagements. Alors, quel intérêt à faire ça, me direz-vous, le premier intérêt, c'est de dire à la communauté internationale, nous n'allons pas nous laisser faire sans bouger. L'autre intérêt, c'est un signal d'alarme lancé aux autres pays signataires de l'accord sur le nucléaire, la France notamment, ces pays qui ont promis à l'Iran un mécanisme pour contourner les sanctions américaines, pour que le pays puisse continuer de commercer avec l'Occident. Le problème, c'est que ce mécanisme de troc existe sur le papier, mais il n'est pour l'instant qu'une coquille vide aux yeux de Téhéran. Et c'est peut-être pour ça que l'Élysée annonce à l'instant qu'un conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron sera demain et mercredi en Iran.
Et c'est vrai que le silence des pays de l'Union européenne est assez étonnant. Nous verrons ce que donne cette rencontre avec un conseiller de l'Élysée à Téhéran. Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. Il est 18h28.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1. Mon invité à 18h30, c'est le député de La République En Marche, Jean-Baptiste Djebbari, qui propose de renationaliser les autoroutes à la fin des concessions, c'est-à-dire pour les années 2030. Et on pourrait déjà dépenser cet argent. Dépenser en 2020 ce qu'on gagnerait en 2030, je lui en parle dans quelques minutes. Restez bien sur Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
18h30 déjà, Elena Morna, de violents orages éclatent encore en ce moment dans le sud-ouest.
Avec 9 départements en vigilance orange, ça n'est qu'un début. Les orages bien costauds, des pluies, des vents soutenus et des averses de grêle jusqu'en première partie de nuit. Des orages qui vont se calmer ensuite mais reprendre en matinée dans les mêmes secteurs, sur le sud Aquitaine jusqu'aux Cévennes et cette fois-ci Languedoc-Roussillon, voire les Alpes du Sud en cours de matinée. Pas d'orages mais quelques gouttes sur les plages méditerranéennes. Ailleurs, c'est beau et ventilé avec une bise bienvenue sur les deux tiers nord. Un peu plus nuageux, c'est vrai, sur le Nord-Pas-de-Calais. Et un peu plus frais aussi, justement, à Boulogne-sur-Mer, avec 18 degrés au max demain après-midi. 20 au Havre, 23 au Lille et Albi, 24 à Nancy, Belfort et Biarritz, 26 à Paris et Auxerre, 28 à Lorient, Bourges et Perpignan, 29 à La Rochelle, comme à Lyon, 30 à Bordeaux, 32 à Nîmes et Marseille. Ça commence enfin à baisser dans le Gard. Et 34, ce sera la maximale pour Ajaccio.
Merci beaucoup, Elena. 18h30 sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. On est ensemble jusqu'à 19h avant de retrouver le Club Tour avec Axel May. Un nouveau point sur l'information à présent avec Sophie Echen.
La grande pagaille à la gare Saint-Jean de Bordeaux après une panne électrique depuis 2 heures. Plus aucun train ne circule. 30 TER et une dizaine de TGV sont impactés, retardés, annulés ou bloqués sur les voies. Un incident sans lien avec les fortes précipitations de cet après-midi sur le sud-ouest de la France. L'équivalent d'un mois de pluie est tombé sur le Pays Basque en l'espace de 3 heures. 9 départements sont toujours placés en alerte orange aux orages jusqu'à demain matin. La tension monte encore d'un cran entre l'Iran et la communauté internationale. Hier, l'Iran a annoncé une augmentation du niveau d'enrichissement de son uranium. Une décision rapidement condamnée. La France souhaite avant tout éviter une crise par la voie diplomatique. Le conseiller d'Emmanuel Macron retourne en Iran dès demain pour œuvrer à la désescalade. C'est une information européenne. D'ici la fin de l'année, le gouvernement prévoit le retrait pur et simple du permis de conduire si l'automobiliste commet une infraction avec son portable à la main. La double victoire pour Julien Alaphilippe. Le cycliste français de l'équipe de Koenig Quickstep a gagné la 3e étape du Tour de France tout à l'heure. Il remporte également le maillot jaune. Et puis fin de parcours pour Benoît Paire à Wimbledon. Le français a perdu cet après-midi en 8e de finale contre l'espagnol Roberto Bautista Agut. En ce moment, c'est Hugo Humbert qui affronte le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Il est actuellement mené 6-3, 6-2.
Merci Sophie, 18h32.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
Et mon invité à présent, c'est Jean-Baptiste Djebbari, député de La République En Marche de Haute-Vienne. Je ne l'ai pas noté, de Haute-Vienne, c'est ça ?
De Haute-Vienne.
Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari, merci beaucoup d'être avec nous. Votre proposition a attiré notre attention ce matin, renationaliser les autoroutes à la fin des concessions, c'est-à-dire dans les années 2030, selon les pièces du réseau évidemment, pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État via les péages, une ligne budgétaire qu'on pourra utiliser dès aujourd'hui. D'abord, une question préliminaire, renationaliser les autoroutes selon une mission parlementaire de 2014, c'était 15-20 milliards d'euros. Selon plusieurs experts, 20-40 milliards d'euros. Si on attend la fin des concessions, c'est zéro.
L'idée, c'est ça. C'est quand même de respecter les engagements contractuels qu'a pris, compris l'État vis-à-vis des concessionnaires et donc d'aller jusqu'au bout des concessions qui, pour les plus grosses, finissent entre 2032 et 2036. Donc l'idée, c'est bien celle-là. On va jusqu'au bout des concessions. Et à compter de 2020, sur la base des redevances futures, des recettes des péages futures qui iraient dans l'escarcelle de l'État à compter de 2032, on finance une partie des infrastructures dont le pays a besoin et que nous venons de voter dans la loi mobilité.
Dès 2020, considérez donc que cet argent arrivera dans les caisses de l'État, s'assurer finalement une dépense, s'assurer qu'elle est budgétée. On dépenserait en 2020 de l'argent qu'on gagnerait en 2030.
On a fait le test, alors ça fait un an et demi que je bosse sur cette initiative. On a fait le test auprès de banques, savoir combien effectivement ça coûtait. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'État s'endette pour pas très cher et que ça risque de durer un peu, notamment du fait de la politique monétaire de la BCE. Donc évidemment, il y a un sujet de dette. Évidemment, l'idée n'est pas de faire beaucoup de dettes en plus, mais on essaie de regarder ça d'assez près, de manière à ce que cette dette, elle soit à la fois affectée aux infrastructures, c'est important, décentralisée dans les territoires, là où on en a besoin. Et dans les calculs qu'on a fait, effectivement, on peut s'endetter un peu de l'ordre de 8 milliards d'euros. Et c'est de la dette qui s'éteint à horizon 2036-2038. Donc c'est un peu un circuit fermé et ça permet de clarifier ce que l'État veut faire des concessions autoroutières, qui de toute façon est une question qui se posera pour lui.
C'est une question qui se posera même rapidement et c'est un débat qui revient assez régulièrement. Certains y voient aussi un moyen de se rabibocher avec les élus locaux, dans un an les municipales, dans deux les régionales, puisque vous proposez de monter une entreprise qui serait propriétaire de ces autoroutes et qui pourrait prêter donc de l'argent aux régions pour financer les infrastructures.
L'idée c'est ça, vous avez une société publique
qui reçoit... C'est de se rabibocher avec les élus locaux.
Non, j'explique le mécanisme. Qui reçoit effectivement les recettes des péages, qui se finance en amont et qui prête aux régions ou qui finance les régions. Ça permet aussi aux régions, ou ça permettrait un peu aussi aux régions d'avoir des compétences. Elles ont aujourd'hui notamment la compétence mobilité et d'avoir les ressources en face des compétences. Le président de la République avait annoncé vouloir étudier un acte 3 de la décentralisation. Et donc cette proposition que je fais, elle permet d'avoir comme ça des briques à la fois sur le retour dans le giron de l'état des concessions, sur la décentralisation, sur un certain nombre d'améliorations d'ailleurs du service de la gestion des routes. Je pense notamment au fait d'enlever les barrières de péage d'ici à 5 ans, de manière à avoir moins de congestion, moins de pollution et un parcours amélioré pour les usagers. Je pense qu'on peut concevoir ce projet comme d'un bloc et l'étudier en tout cas sérieusement.
Avec cette proposition, est-ce que La République En Marche essaye de calmer les opposants à la privatisation d'ADP ? Si je vous demande ça, c'est parce qu'en général, ce ne sont pas les moins démagos des politiques qui proposent de reprendre les autoroutes.
Oui, mais justement, la proposition démagos, ça serait de se dire, écoutez, on nationalise demain et effectivement, on casse les contrats, donc on paye 30 milliards. Et en fait, les démagos font ça. Moi, ce que je propose, c'est de respecter le droit et de regarder comment on peut construire un objet un peu nouveau, de clarifier effectivement l'état des concessions et d'essayer de trouver... De l'argent, de manière à effectivement financer des infrastructures qui sont nécessaires.
Si on veut de l'argent, on peut aussi reproposer une nouvelle concession sur 20 ans et empocher quelques milliards d'un seul coup.
Oui, on peut. Alors c'est ce que d'ailleurs veulent faire les autoroutiers qui nous disent aujourd'hui, nous, vous savez, on a pas mal de moyens, donc ce qu'on propose, c'est de faire l'investissement à votre place et puis vous nous prolongez les concessions. Moi, je pense qu'on est allé un peu trop loin dans le rapport de force et quelque part, l'État, aujourd'hui, perd un peu le rapport de force avec les autoroutiers. Et moi, j'ai aucun problème avec les autoroutiers par principe, si vous voulez. C'est plutôt des grands aménageurs du territoire. Aujourd'hui, ils exploitent 9000 km de route, il y a 1000 aires de repos. Enfin, c'est vraiment des beaux objets, les autoroutes, en vrai. Et simplement, je pense qu'en termes de rapport de force, il faut aujourd'hui rééquilibrer un peu tout ça. C'est ce que je propose de faire dans cette proposition. Simplement sur ADP, moi, en soi, je n'ai pas de problème avec les concessions par principe. D'ailleurs, la concession ADP, telle qu'elle est proposée dans la loi, elle est très encadrée. Là, je pense qu'on est allé avec les autoroutes un cran trop loin et qu'on a besoin d'avoir un peu plus de régulation politique.
Il faudrait au moins, quand on prolonge les concessions, revoir les contrats, mais ça c'est encore un autre débat, puisque vous voulez les renationaliser. D'un mot, Jean-Baptiste Djebbari, avant de vous libérer, il faut aujourd'hui suspendre le permis, retirer le permis aux automobilistes, c'est une information qu'Europe 1 révélait ce matin, aux automobilistes qui commettent une infraction avec le téléphone au volant.
Alors, ça c'est effectivement le gouvernement qui a une réflexion qui devrait être tranchée d'ici à la fin d'année sur le fait de savoir que quand vous commettez une infraction et qu'en plus vous utilisez le portable, vous puissiez être suspendu du permis. Alors, c'est pas tranché hein, de ce que je sais, mais en tout cas, les chiffres sont assez, assez inquiétants. C'est que vous avez 3 fois plus de chances d'avoir un accident quand vous téléphonez et que vous commettez une infraction et 23 fois plus de chances d'avoir un accident quand vous textotez. Donc, il y a un vrai sujet de sécurité publique. Je ne sais pas ce que fera le gouvernement, on lui posera la question, mais en tout cas, il y a un vrai sujet de santé et de sécurité
publique. Selon nos informations, le gouvernement a trouvé cette parade, justement, puisque les Français, on n'arrive pas à réduire finalement l'utilisation du téléphone au volant. Je vous remercie, Jean-Baptiste Djebbari.
Avec plaisir.
Merci d'être venu répondre à nos questions. Député La République En Marche, spécialiste des transports, et donc à l'origine de cette proposition de renationalisation des autoroutes à la fin des concessions dans les années 2030. Merci beaucoup. 18h38. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. On va reparler justement de cette proposition, de cette information Europe 1 avec le gouvernement qui souhaite vous retirer le téléphone si vous commettez une infraction avec le téléphone au volant. On va en parler avec Yves Cara, qui est porte-parole de l'Automobile Club Association, dans un instant. À tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
Cette information, désormais, on l'a appris il y a quelques instants. Le Vatican lève l'immunité diplomatique de son représentant en France, Monseigneur Luigi Ventura. Il était visé par 4 plaintes, dont 3 pour agression sexuelle. Bonsoir Pauline Jacob.
Bonsoir.
L'affaire avait éclaté au mois de février.
Oui, c'est à ce moment-là que le parquet de Paris avait ouvert une enquête à la suite de 4 plaintes, 4 hommes dont 3 pour attouchement. L'évêque a été entendu par la police judiciaire à Paris début avril à sa demande. L'évêque qui aurait agressé entre autres un jeune homme de 27 ans, un cadre de la mairie de Paris au mois de janvier, à plusieurs reprises lors de la cérémonie des vœux aux autorités diplomatiques.
Pauline, cette levée d'immunité, c'est très rare.
C'est rarissime, ça n'est arrivé qu'une seule fois. En 2014, l'ancien ambassadeur du pape en République dominicaine accusait lui de faits de pédopornographie. Aujourd'hui, c'est une victoire de la justice, selon l'Église de France. Et d'après nos informations, Monseigneur Luigi Ventura nie toujours les faits et compte bien se défendre face à ces accusations d'agression sexuelle.
Merci beaucoup, Pauline Jacquot, 18h42. À présent, mon invité, c'est Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. J'en ai dit un mot à mon invité précédent, Jean-Baptiste Djebari. Nous parlons du téléphone au volant. Bonsoir Yves Cara.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous.
Merci d'être en direct avec nous. C'est la parade du gouvernement face à l'usage intempestif du portable au volant. On en parle depuis ce matin, c'est Europe 1 qui révélait cette information. Dans le projet de loi mobilité, on pourrait trouver cette disposition qui prévoit la suspension pure et simple du permis de conduire, pas quelques points, le permis, si le conducteur commet une infraction tout en téléphonant. Bonne idée, mauvaise idée ?
Écoutez, nous à l'Automobile Club Association, on a toujours été pour la prévention et la formation. Avec ces deux piliers, on peut vraiment travailler durablement et profondément sur la sécurité routière. Néanmoins, il faut bien reconnaître que pour le coup, le téléphone, c'est vraiment le cancer du 21e siècle au volant. Avant, on téléphonait, maintenant on écrit des SMS et maintenant on répond aux mails. Donc ça devient vraiment très très dangereux de quitter la route quelques secondes. On fait des centaines de mètres quand on est à 130 km/h. Donc pour le coup... Vous voyez, hein, c'est un porte-parole d'un Automobile Club qui vous dit ça, renforcer et dissuader les gens de tenir leur téléphone à la main, je dirais pourquoi pas, le temps qu'ils comprennent vraiment qu'il ne faut pas le faire, ça me semble une bonne chose.
Les sanctions ces dernières années ont été durcies d'année en année, et pourtant les automobilistes sont deux fois plus nombreux, ce sont des chiffres de la SANEF, tiens, on parlait des autoroutes, les automobilistes sont pas deux fois plus nombreux, 6% à utiliser le téléphone à la main en conduisant contre 3,7% en 2015. On n'arrive pas à faire raccrocher les Français.
Oui, globalement, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que il faut éviter tous les distracteurs au volant. C'est-à-dire, faut rester les yeux rivés sur la route, les deux mains sur le volant et concentré, quelle que soit la vitesse d'ailleurs, hein, que ce soit 30 km/h ou 130 km/h. Et tous les distracteurs, mais ça peut être taper l'adresse sur son GPS pour aller à un autre endroit que prévu en roulant, ça c'est pas bien. Ça peut être aussi regarder dans son sac à dos à côté pour prendre son sandwich. Enfin, tout ce qui est distracteur qui vous fait quitter la route des yeux, c'est excessivement dangereux. Ça augmente les temps de réaction et là vraiment on devient dangereux. Et le téléphone est l'un des principaux distracteurs, effectivement. Donc oui, il faut agir fortement. Et c'est vrai que accompagné d'une faute grave, c'est-à-dire passer un stop, griller un feu, frôler quelqu'un qui traverse parce qu'on l'a pas vu, parce qu'on avait les yeux sur le téléphone, dans ces cas-là, quand c'est accompagné d'une faute grave, pourquoi pas une suspension de quelques mois pour bien faire comprendre qu'il ne faut plus le refaire.
D'une faute grave, oui, vous avez l'air de dresser une liste, parce que je trouve qu'il y a un dénominateur commun. Vous avez l'air assez d'accord, pour le coup, avec le délégué interministériel à la sécurité routière. Ce n'est pas fréquent, hein, puisque je vous ai déjà eu en débat très courtois, mais ce n'est pas fréquent qu'on arrive à vous mettre d'accord. Mais vous arrivez à concevoir que voilà, je me fais flasher à 140 au lieu de 130. Si j'ai le téléphone à la main, ce n'est plus de permis du tout.
Oui, parce que il y a une différence entre être à moins de 20 km/h, mais je dirais une faute de vitesse d'inattention. Moins de 20 km/h, on en fait 30 000 personnes en stage de récupération de points. 90%, c'est le petit point qu'on perd parce qu'on est un peu distrait et qu'on n'a pas réduit de 130 à 110, de 90 à 80. Vous voyez, j'appelle ça des fautes de vitesse d'inattention qui ne sont pas forcément dangereuses. Mais quand on est à 140, déjà au-dessus de la vitesse, en plus avec un téléphone dans la main où on est peut-être en train de répondre à un SMS, alors là, on est excessivement extrêmement dangereux parce que le temps de réaction sera rallongé. Donc oui, dans ces conditions, il faut pas hésiter, je crois, à être très ferme. Oui, effectivement. Vous voyez, on peut être d'accord avec Emmanuel Barbe, même si on peut discuter.
Je le note. Je crois qu'on pourrait en faire une dépêche. Yves Cara est d'accord avec Emmanuel Barbe. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est un sujet qu'Europe 1 révélait ce matin et je voulais avoir votre regard sur cette question-là. Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, en direct ce soir. Il est 18h46. Le gouvernement vient de publier un bilan de la lutte contre le travail illégal, notamment contre la fraude au travail détaché. Nous retrouvons Anne-Laure Jumet au ministère du Travail où ont été présentés ces chiffres. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Mathieu.
L'an dernier, plus de 200 000 travailleurs détachés ont été déclarés par leurs employeurs. Une augmentation continue depuis 2015.
Oui, le nombre de travailleurs détachés a doublé entre 2015 et 2018. 228 324 travailleurs ont été recensés précisément. On parle là des salariés européens employés légalement sous ce statut. Un statut qui permet, rappelons-le, à l'employeur d'avoir un coût du travail moins élevé puisque ce sont les cotisations du pays d'origine qui s'appliquent, le salaire étant lui calqué sur les règles françaises. Alors cette progression du travail détaché légal montre que l'arsenal de lutte contre la fraude a bien marché selon le ministère du Travail. Les contrôles de l'inspection du travail ont été renforcés, plus de 20 000 interventions sur le territoire l'an dernier, ce qui met la pression sur les employeurs. Mais l'autre raison invoquée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, c'est que les entreprises manquent de main-d'œuvre dans certains secteurs et vont donc chercher les compétences dans d'autres pays européens. Les trois secteurs qui font particulièrement appel au travail détaché en France, ce sont d'ailleurs l'industrie suivie du BTP et de l'agriculture. Enfin, contrairement aux idées reçues, c'est l'Allemagne qui arrive en tête des pays pourvoyeurs de travail détaché en France, avec un certain nombre de travailleurs qualifiés, notamment des ingénieurs, viennent ensuite l'Espagne et la Belgique.
Merci beaucoup Anne-Laure Jumet, 18h47. Vous êtes sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. Un nouveau point sur l'information avec Sophie Echen.
La troisième étape du Tour de France remportée par le Français Julien Alaphilippe. Une étape franco-belge entre Binche et Épernay. Le coureur de l'équipe de Koenig Quickstep qui s'empare également du précieux maillot jaune. C'est la fin d'une bataille judiciaire de plus de 10 ans. Les parents de Vincent Lambert ne déposeront plus aucun recours pour le maintien en vie de leur fils. Ils se disent résignés. Désormais, pour eux, sa mort est inéluctable. Les traitements de Vincent Lambert ont été interrompus mardi dernier. Le Vatican lève l'immunité de son représentant en France, le nonce apostolique Luigi Ventura. Il est visé par une enquête pour agression sexuelle. L'équivalent d'un mois de pluie en 3 heures, c'est ce qui est tombé cet après-midi sur les Pyrénées-Atlantiques. 9 départements du sud-ouest de la France sont placés en vigilance orange aux orages. L'alerte est en cours jusqu'à demain matin.
Un nouveau point météo avec Elena Morna à 19h. Merci beaucoup Sophie. 18h48, vous savez quoi? Je sais que certains d'entre vous sont en vacances. D'autres ne le sont pas forcément et ont envie de loisirs, un petit peu quand même de loisirs estivaux. Eh bien Thierry Geffrotin vous propose une petite sélection de ce qui se fait de mieux au théâtre pendant l'été pour que vous puissiez peut-être aussi même vous rafraîchir parfois. Restez bien sur Europe 1, on revient dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
18h51 sur Europe 1, un ancien gardien de la paix reparti du tribunal menotté par ses collègues policiers. L'image avait de quoi surprendre tout à l'heure au tribunal correctionnel de Paris où cet homme a été condamné à 6 ans de prison ferme, emmené directement en prison. Bonsoir Chloé Triomphe.
Bonsoir.
Vous étiez au tribunal tout à l'heure Chloé, lorsque le jugement de cet homme et de ses complices est tombé. Ils étaient tous des sympathisants actifs de l'État islamique.
Oui, autant dire que la qualité de policier a lourdement pesé dans la lourdeur de la peine prononcée par le tribunal à l'encontre de cet ancien gardien de la paix en poste au commissariat du Kremlin-Bicêtre jusqu'en 2017. Il est reparti sans un mot, en tendant même les bras derrière le dos pour que ses pairs lui passent les menottes avant de le conduire en prison pour y passer sa première nuit, lui qui avait comparu libre aux audiences. Alors pour justifier sa décision, la présidente a insisté sur le grave trouble à l'ordre public et sur l'atteinte portée à l'autorité de la police par ses actes. Vous avez trahi la confiance des citoyens, a-t-elle dit. Elle a aussi parlé de son comportement inquiétant, celui d'un homme qui échangeait avec son frère des paroles de satisfaction après plusieurs attentats, dont l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville. Les deux hommes partageaient encore des messages de propagande de l'EI via des messageries cryptées et ont même contribué à créer un compte pour un Français chargé de la propagande au cœur de Daesh. Alors le policier a eu beau plaider le dédoublement de personnalité dû à une dépression, eh bien le tribunal ne l'a pas cru et a été particulièrement inquiet de son volontariat pour participer aux investigations sur les attentats du 13 novembre. Son avocat a immédiatement fait appel en dénonçant une justice pour l'exemple.
Merci beaucoup Chloé Triomphe, il est 18h52. Antoine est avec nous. Vous nous appelez à tout moment dans ce grand journal au 39-21 et vous continuerez à nous appeler dans quelques minutes sur le Tour de France avec le Club Tour à partir de 19h. Antoine est en ligne avec nous depuis la Normandie. Tiens, bonsoir Antoine.
Bonsoir Mathieu, vous allez bien?
Ça va très bien et vous Antoine?
Oui, très bien.
Bon, vous réagissez au sujet du téléphone au volant. Je rappelle cette information que Europe 1 donnait ce matin. Le gouvernement réfléchit à une suspension total du permis de conduire si vous commettez une infraction avec le téléphone au volant, Antoine. Vous soutenez cette idée,
ah oui,
cette initiative, oui?
Ah oui, complètement. Moi, je suis complètement d'accord parce que faut dire que quand on regarde son téléphone, on regarde pas la route. Hein. Et s'il faut encore une fois jouer les pères fouettards pour faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas à conduire pour leur sécurité avec un téléphone à la main...
Qu'est-ce que vous dites, quoi? C'est qu'il y a que ça qui marche, finalement, quand on vous entend?
C'est ça. Bah, excusez-moi, mais c'est vrai que regardez, il y a plein de choses pour lesquelles on a mis la main aux portes, on a dit c'est ça, faire payer les Français. Du coup, il y a des choses qui sont passées et qui ont été acceptées comme ça. C'est comme je sais plus quoi, il y avait la cigarette, c'était pas ça ou un truc comme ça. C'était pas celui d'amende si on fumait en restaurant, des trucs comme ça.
Bien sûr.
À chaque fois, c'est ça. Si de toute façon, il y a un moment, si on veut que ça marche, il faut mettre une carotte, hein, c'est ça. Et puis en plus de ça, j'ai envie de dire, il y a encore moins d'excuses de nos jours quand on voit que maintenant toutes les voitures sont équipées d'un système Bluetooth ou qu'on peut relier le téléphone.
Les plus récents, évidemment. Oui, bien sûr. Mais écoutez, pour vous, il y a pas d'excuses. Il faut sanctionner et sanctionner durement. L'argument de la peur du gendarme, hein, si je vous ai bien compris.
Oui,
merci beaucoup.
Puis, après, j'ai envie de dire, c'est pas forcément après une suspension, pas forcément un retrait, mais une suspension, ça permettra de comprendre.
Merci Antoine. Après, il faudra trancher effectivement suspension, retrait de permis. En tout cas, je vous invite à retrouver sur europe1.fr le détail de cette information révélée par Aude Leroy dans la matinale aujourd'hui. Merci Antoine. Merci d'avoir composé le 39-21. 18h54, nous allons parler de théâtre avec Thierry Geffrotin. Pendant l'été, beaucoup de salles parisiennes restent ouvertes avec des créations, des reprises et des spectacles qui se poursuivent. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Mathieu.
Vous avez choisi pour nous quelques pièces qui sont à l'affiche à Paris.
Et je vais commencer par la comédie française La Troupe, qui nous fait aimer tous les styles de théâtre. Alors j'ai pour vous, dans des genres différents, La vie de Galilée de Bertolt Brecht, Le misanthrope de Molière et un classique de Georges Feydeau, L'hôtel du libre-échange.
C'est qu'une chose, c'est qu'on vous a insulté devant moi. Eh bien, je relève l'insulte. Qu'on vous a défié de prendre un consolateur, eh bien, je relève le défi. Je le serai. Moi, votre amant.
Eh oui, je le saurais, votre amant. Michel Villermoz, en l'occurrence. On rit beaucoup aussi au Théâtre des Béliers parisiens avec Jean-Louis XIV, une histoire totalement loufoque. Le roi Soleil...
Jean-Louis XIV.
Oui, vous allez comprendre pourquoi. Le roi Soleil change de nom pour s'installer discrètement dans une auberge avec sa maîtresse, Madame de Montespan. Au Théâtre de la Madeleine, ménopause. Quatre femmes totalement différentes se rencontrent dans un grand magasin. Elles se rendent compte qu'elles ont un point commun. Elles en parlent et elles le chantent.
Vieillis formidable. Plus de rejetons, pilules, tampons, je suis plus fécondable. À 50 ans, je revis, j'exute, oui, viens.
La ménopause en chanson. Pourquoi
oui,
pas, mon cher
drôle,
Thierry.
Là,
alors, justement, on connaît votre goût pour la musique, Thierry. Vous avez aussi des spectacles musicaux à nous conseiller.
En effet, il n'est pas trop tard pour voir Michel Forever aux Poches Montparnasse, un spectacle hommage à Michel Legrand. C'est jusqu'à dimanche prochain, il faut quand même se dépêcher. Au théâtre Essaillon, opéra piécé. Comment deux chanteuses et une accordéoniste créent un opéra en prenant des thèmes instrumentaux de la musique classique, en ajoutant des paroles, de leurs paroles, hein. Vivaldi, Mendelssohn, Verdi ou Brahms. Oui, c'est un peu salsa. Brahms façon salsa. Au Théâtre de Paris, Ola Bellevie par 5 de cœur. C'est le nom d'un quintet vocal très virtuose. Et puis, alors c'est pas musical, mais c'est très original. Au Théâtre Le Pic, le spectateur ne reste pas dans son fauteuil. Il part à la recherche du Graal. L'occasion de découvrir l'envers du décor d'un théâtre. Un spectacle immersif, un escape game, comme on dit aujourd'hui, à vivre en famille.
Merci beaucoup Thierry Geffrotin. Toutes ces références à retrouver sur europe1.fr. 18h57. Vous êtes sur Europe 1, vous restez bien avec nous de 19h à 20h à présent, le Club Tour avec Axel May, Thomas Voeckler, nos consultants. Vous restez bien, vous allez vivre avec Axel cette journée du Tour de France, 3e étape. Et un Français en jaune, Julien Alaphilippe, à tout de suite.